C'est pas tellement pour débattre. Moi, simplement, je trouve ça très intéressant. Ça me donne beaucoup d'envie sur certaines choses, mais ça me paraît des montagnes sur un, avec le travail que j'ai et tout ça. Donc, ça me donne envie de le faire ponctuellement sur certaines choses, mais ça me paraît, pour que ça marche bien, une telle préparation, comme vous dites, c'est vraiment des groupes et tout ça. Donc je me dis que je serai peut-être en retraite quand on commencera tout le monde à travailler comme ça. Et ça me paraît super intéressant, mais j'ai pas pour l'instant l'énergie, l'impression d'avoir la possibilité de faire ça, en tout cas souvent, ou alors de me dire un mois à l'avance, bon, cette leçon, je vais la faire comme ça. Je vais essayer de trouver des choses intéressantes pour faire comme ça. Mais voilà. Donc même si sur le fond, mais j'ai tout, c'est super bien, quoi, voilà.
Oui, ben effectivement, bon, ben là, il faut plus placer du point de vue du professeur isolé, effectivement. C'est des tâches absolument impossibles, sauf d'être un petit génie comme Célestin Freinet, passer ses nuits et ses journées, ses vacances à travailler là-dessus, mais bon, soyons raisonnables. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, ce que l'on a fait, c'est créer, alors pour le second degré, ce collectif, ce réseau qui s'appelle PERM maintenant, et dans lequel ce sont des groupes académiques qui travaillent collectivement. Alors bon, à Bordeaux, ils se réunissent presque une fois par semaine, à Marseille, on se réunit moins souvent, on se réunit tous les 15 jours, bon, par exemple, au Léa Marseille Vert que j'anime, bon, Serge, c'est à peu près pareil, au Léa École Saint-Charles qui l'anime, lui aussi, bon, etc. Et puis, alors, ben, là, ça prend énormément de temps. Bon, par exemple, ça prend du temps aussi pour arriver à polir ce travail-là et faire en sorte que ça tourne, quoi, sans trop d'anicroche. Alors, la première année, des fois, ça se passe très bien, des fois, ça bloque, donc il faut reprendre le boulot, etc. Donc, c'est un travail collectif. Bon, première des choses. Ensuite, c'est un travail qu'on a essayé de faire partager à d'autres à travers le site EducMath. Bon, c'est Robert qui l'évoquait. Après, on a un petit peu arrêté parce que on était un peu dans le brouillard. On était dans une arborescence qui est pas facile pour atteindre nos propositions. On a des propositions qui tournent. Ça ne couvre pas tout le collège et c'est loin de couvrir le lycée. On a des propositions qui tournent. Par exemple, ce que j'ai montré là sur les équations, ça tourne et ça tourne très bien, quoi. Voilà. On a des trucs sur le théorème de Thalès, on a des trucs sur les relatifs. Comment on fabrique ça? Ben, par exemple, cette année, j'ai passé une partie de mes vacances à travailler sur la symétrie centrale. Bon, en cinquième. J'ai proposé un truc à mes collègues du collège Marseille Vert à la rentrée. Et puis, évidemment, il faut se jeter à l'eau, quoi. Bon, alors, des fois, ça coince, bon, et alors, on va retoucher, etc. C'est un travail de longue haleine. Et, en fait, une association des profs de maths devrait proposer cela, et qui soit efficace, devrait proposer des ressources pour les professeurs. Et je suis pas sûr que dans la rubrique « Dans nos classes » du bulletin vert, on trouve ce genre de choses, ce genre de ressources là. Bon, alors, c'est une critique adressée à la PMEP, dont j'ai été membre, mais j'y suis plus, pour cette raison-là, justement. Mais je pense qu'il y a à fabriquer des collectifs de professeurs qui travailleraient comme ça, de manière à ce que la profession enseignante puisse disposer de ces outils qui manquent cruellement actuellement aux professeurs, et donc il faut arriver à les fabriquer. C'est l'idée qui est dans le groupe PERM. Alors bon, moi je vous engage à nous rejoindre, voilà. Ah ben le temps, oui, alors oui, oui, mais je connais très bien la situation des professeurs du second degré, hein. Je sais ce que c'est. Et alors ce temps là quand même, on le gagne. C'est-à-dire que les classes tournent, bon, on n'a pas à revenir en arrière, c'est plus facile, quoi, c'est plus agréable, voilà.
Je voudrais compléter, comment dire, rebondir sur ce que tu dis. Il y a deux choses dans la question que tu poses finalement, c'est les moyens et les structures. On est ravis depuis qu'on sait qu'on a autant de participants à cette proposition de formation, car pour nous c'est un indice qu'on, petit à petit, cette proposition, on peut la structurer autour de temps particuliers de formation et d'échange, autour de moyens de documentation disponibles pour pouvoir mettre en œuvre personnellement sans avoir à accomplir tout ce chemin vers comment constituer les moyens de rencontrer ces questions cruciales et ces génératrices. Et puis il y a aussi donc la documentation. Alors qui l'a fait, comment on l'a fait, on apprend à se structurer aussi, c'est-à-dire mettre à disposition à la fois des sources documentées, mais quand je dis documentées, c'est y compris dans la mise en œuvre effective, c'est-à-dire des captures, des moyens de réflexion. Maintenant, il y a aussi la structure de la réflexion en temps réel, et c'est de ça que parlait Yves, c'est-à-dire que trouver les moyens de structurellement nous organiser collectivement pour pouvoir, une fois qu'on est, alors je vais utiliser, maintenant je vais m'autoriser à certaines formules, qu'on est équipé praxéologiquement l'observation des documents et de la réalisation, pour pouvoir mutualiser et continuer à avancer dans ce dispositif-là. C'est à ça qu'on s'attelle actuellement, en s'adossant sur des structures pérennes, les IREM, les associations savantes, et puis les institutions. Je crois que c'est aussi la place des institutions à réfléchir. Quand je parle d'institutions, c'est les institutions de recherche, les institutions administration centrale, pour pouvoir entrer dans cette nouvelle profession, dans cette professionnalité qui nous permettrait de fonctionner comme cela. On tente de le faire et on espère que ça va pouvoir, mais on sait très bien cette difficulté et cette inflation de temps que cela nécessite. On ne pourra, de notre point de vue, enfin c'est le choix qu'on a fait avec Yves et Alain Mercier, de proposer par rapport à ce qui existe, de nous structurer d'une certaine façon pour avancer collectivement.
Oui, juste une remarque très courte. Aujourd'hui, au Conseil des ministres, passe la loi d'orientation sur l'école. Bon. Donc j'ai lu quelques articles et on peut penser tout ce qu'on veut de cette loi d'orientation. Et je ne sais plus dans quel journal... on parle de Peillon et on dit le diagnostic de Peillon, c'est l'école actuelle est à bout de souffle. Je pense que ça, c'est un diagnostic qu'on peut partager. Maintenant, les solutions, ça se discute. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement, à partir de ce constat, l'école actuelle est à bout de souffle, c'est nos propositions, quoi. Voilà. Comment faire en sorte que les élèves étudient les mathématiques et soient deviennent des citoyens libres et éclairés, c'est-à-dire qu'ils soient capables librement ensuite d'utiliser les techniques d'études et de recherche qu'ils auront rencontrées à l'école pour s'en servir au-delà de l'école, quoi. Voilà. C'est-à-dire la liaison école-société, comme toujours, l'école dépendant de la société à l'intérieur de laquelle elle se trouve.
Et puis pour compléter ce que dit Yves, un constat, simplement au titre de constat empirique, effectivement ça paraît peut-être épuisant ou impossible, mais il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que dès lors que les élèves sont engagés, le prof n'est plus tout seul. L'engagement des élèves, dès lors qu'il est dans ce dispositif-là, il apporte, et il apporte beaucoup à la dynamique et comment dire, à l'énergie pour tenir cela. Et c'est un des points assez importants. On n'a pas étudié, on n'a pas les moyens de le mesurer, mais finalement... de l'expérience qu'on conduit au collège ou dans les écoles, on en est maintenant à penser le raccourcissement du temps nécessaire pour produire ce dispositif-là. Si le réglage est à peu près convenable avec les professeurs expérimentés dans ce dispositif-là, on en est à pouvoir penser à l'économie maintenant, c'est-à-dire moins de temps nécessaire tout en gardant l'esprit et l'enjeu. On en est là et à la demande des professeurs, c'est-à-dire que maintenant, on peut envisager raisonnablement de raccourcir l'énergie nécessaire pour faire ça dès lors qu'effectivement on a une maîtrise suffisante de ce type de dispositif. Dans les collèges, au collège Marseille Vert Oléa, c'est vers là qu'on va maintenant. On sait que c'est robuste, on sait le temps que ça a coûté pour éprouver la robustesse. Maintenant, on pense à l'économie raisonnable pour pouvoir mettre en œuvre, en termes d'énergie, en durée, moyen, pour pouvoir généraliser cette chose-là. Et les élèves aussi, là, sont un élément non négligeable dans les ressources mobilisables là-dessus. Et j'insiste aussi, les familles. Nous travaillons dans des lieux pas toujours socialement favorisés. Les familles soutiennent ce type de dispositif, comprennent l'enjeu qu'il y a derrière. Et c'est aussi un levier pour mobiliser l'ensemble dans ces choix-là, car ça ne pourra plus être tenable tel que c'est.
Moi, j'ai été content de trouver le site CD Ampère et les documents qui sont disponibles. Je suis étonné que vous n'en parliez pas. C'est quand même un gros boulot.
On l'a montré l'autre jour.
Parce que j'étais pas là, d'accord. Mais voilà, ça. Ouais. Moi, j'arrive au lycée après 10 ans de collège et je suis très content de partir d'une base qui est quand même déjà bien, bien fournie malgré tout. Quoi.
Oui, merci. Mais bon, il y a encore des trous qu'il nous faut combler dans le programme. Ouais. Et puis au lycée, en plus, ça se diversifie selon les séries.
Moi, j'ai une question par rapport à la trace écrite de tout ça. C'est-à-dire que si je refais encore un peu mes analogies avec ce que font les enseignants de langue, maintenant ils travaillent en séquence, ils sont plus dans cette notion de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 comme on peut l'être nous dans nos cours. Et j'ai l'impression que là, avec ces questions génératrices, on est dans ces séquences et que peut-être qu'on fait plus chapitre 1, priorité opératoire, chapitre 2, théorème de Pythagore, peu importe, mais qu'on est dans des outils qu'on amène. On a mis le théorème de Pythagore, le théorème de Pythagore, c'est ça. Et voilà comment on s'en sert, un peu comme ils font des points de grammaire plutôt que des chapitres. Mm-hmm. Donc que vient la trace écrite là dans...
La trace écrite, c'est ce qu'on appelle l'institutionnalisation, d'accord. Donc on essaye, alors premièrement, on essaye de la faire vivre avec les élèves. C'est-à-dire que, le professeur est garant de la validité du savoir, comme toujours. Mais on essaye de faire en sorte que, parmi tout ce qu'on a trouvé là, qu'est-ce qui mérite d'être retenu, d'être consigné, etc. Ça c'est déjà... Et puis, on va la consigner comme une synthèse du cours. Alors... Il y a des professeurs qui utilisent le classeur, d'autres qui utilisent le cahier. Quand c'est le cahier, on va laisser des espaces libres. C'est-à-dire que le prof compte auparavant. Voilà. C'est-à-dire, on n'a pas encore trouvé la forme, me semble-t-il, adéquate pour l'écriture. En fait, il faudrait trois cahiers ou trois zones dans le classeur, etc. Une pour la démarche d'investigation, qui serait un cahier de recherche, comme ça existait quand j'étais élève de l'école primaire. On avait des cahiers d'essais, ça s'appelait. Est-ce que tu as connu ça, Nadine, puisqu'on est de la même époque à peu près? Il y avait des cahiers d'essais. Après, il y aurait un cahier de compte rendu de démarche d'investigation, comme il y a un cahier de labo, Et puis après, il y aurait un cahier d'exercice. Il y a trois, je pense qu'il faut arriver à organiser en trois parties comme ça. Alors les profs, très souvent, ce que j'ai vu dans ce Léa, c'est que on a fait des institutionnalisations partielles. Voilà ce qu'on a trouvé, etc. Bon, et puis ça a été noté au tableau. Bon, et ce que j'ai vu aussi, c'est les profs qui donnent la synthèse photocopiée, de manière à gagner toujours le problème du temps. De manière à gagner du temps, de manière à ce que... voilà. Alors, ils savent déjà à l'avance, bien sûr, là où on va amener les élèves. Bon, et les élèves retrouvent, après, on fait une petite étude de ce que du polycope que le prof a donné, quoi. Voilà. Puis après, il y a les exercices, comme d'habitude. Est-ce que c'est satisfaisant? Bon, ça, je sais pas.
Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, on est d'une certaine manière dans un côté un peu arborescent dans la recherche, ouais. Parce qu'on part sur plein de questions qu'on va traiter maintenant ou pas. Et je me demande si la représentation qu'il faudrait avoir, c'est pas plus proche des MapMind, des cartes heuristiques qu'ils utilisent aussi pas mal en langue, où on part peut-être d'un problème de géométrie, et puis bah, voilà comment on peut montrer qu'on a des droites perpendiculaires, qu'on peut montrer qu'on a des droites parallèles, et puis à chaque fois, on prolonge cet arbre. Et on vient de voir une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie, et ben où est-ce qu'on la place dans notre arbre? Alors évidemment, comment on représente ça sur un cahier d'élèves, c'est un peu compliqué, mais
ouais.
Le problème, c'est de transformer ça de façon linéaire comme on le pense pour l'instant, et c'est en même temps, voilà, faut que l'élève puisse s'y retrouver là-dedans dans ce qu'on
veut. Oui, alors peut-être que l'outil informatique, les tablettes dont notre collègue qui est derrière toi fait la promotion, enfin va essayer de voir l'utilité didactique et pédagogique. Peut-être que ça serait une solution, je sais pas.
Ça pourrait être une sorte, ça pourrait être résumé sur une page. Ça pourrait être un espèce de sommaire pour dire tel point, on l'a traité à la page 5 du cahier, et puis on peut aller voir.
Tout à fait.
Peut-être.
C'est vrai.